Bonjour à tous, bienvenue à Kyriel. Kyriel, votre émission sur les chants grégoriens. Alors aujourd'hui, je vous propose une émission autour de la thématique de l'arbre de vie. Et nous aurons dans un instant une interview de Frédéric Rentière qui sera avec nous pour nous proposer ce CD autour duquel nous avons bâti cette émission. CD de l'ensemble Vox in Rama, intitulé Lignum Vitae. Et nous allons sans plus tarder commencer par écouter un premier extrait. C'est la plage 1 du premier CD, puisque ce programme est diffusé sur deux CD. C'est le réponse Stirpe Jessé, dont voici les paroles en français. La souche de Jessé a produit une branche et la branche une fleur. Et sur cette fleur repose l'esprit fécond, la Vierge, Mère de Dieu, et la branche et la fleur et son fils. Je suis maintenant avec Frédéric Rentière. Frédéric Rentière, bonjour.
Bonjour, Michael.
Alors, je voulais qu'on voit avec vous cette thématique de l'arbre de vie, de ce nouveau CD qui est là tout frais, si je puis dire, Lignum Vitae, la voie de l'amour au Moyen-Âge. La première, on vient d'en entendre un extrait, je voudrais vous poser la première question, finalement, sur le projet même du CD. En quoi l'image de l'arbre est-elle un bon modèle conceptuel pour penser le chant grégorien?
En fait, l'arbre de vie, on pourrait aussi l'appeler l'arbre de la généalogie, l'arbre généalogique biblique, est en effet un modèle structural qui a servi à la construction du premier motet. Alors de manière concrète, ça s'explique très simplement, tous les motets au XIIIe siècle sont construits sur un plein champ qui tient lieu de racines en fait, et ce plein champ, de la même manière que dans la racine de Jessé, la racine finalement symbolise l'esprit prophétique duquel naîtra le Christ. De la même manière, le chant grégorien, lui, manifeste l'esprit de l'Église, en fait, qui va nourrir la texture du motet. Donc ça, c'est le premier élément structural qui va vraiment nourrir la structure du motet et qui va guider aussi les compositeurs, qui étaient très certainement des clercs, donc très initiés au chant grégorien. Et donc là, justement, je propose d'écouter comment le premier motet s'élabore, en écoutant justement un organum construit sur le plein chant qui a été diffusé en début d'émission, donc le plein chant Stirpe Jessé de Fulbert de Chartres. Et alors donc un organum a été composé au XIIe siècle qui reprend le texte du Stirpiécé et qui développe la thématique de la branche justement, l'organum, cette improvisation vocale sur le plein chant, étant comme une branche qui jaillit de la racine.
Alors, avant qu'on l'écoute, je vais peut-être lire les paroles en français de ce que nous allons écouter. Donc voici ce que dit l'organum Stirpiécé. La souche de Jessé a fait germer une tige fleurie, et dans la fleur repose l'esprit protecteur. La tige produit un fruit grâce auquel vivent les siècles. On écoute maintenant donc la plage 2 du CD Lignum Vitae de l'ensemble Vox in Rama, dirigé par Frédéric Rentière. Alors Frédéric Rentière, quelques commentaires ?
Oui, alors ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est qu'on a bien le modèle structural de l'arbre avec le plein chant comme souche vocale et l'organum comme branche et comme tige qui se développe. Mais il y en a aussi une correspondance textuelle, puisque au Moyen-Âge, on aimait beaucoup jouer sur ce qu'on appelle les paronymies, c'est-à-dire les ressemblances de mots. La virga, effectivement, la branche en latin, ressemble, est très proche du mot virgo, qui signifie vierge, qui n'a pas du tout la même signification. Et dans le texte, on peut justement constater le jeu de mots qui va être fait entre virga et virgo. Donc on a une double sémantique, si je puis dire, entre musicale et poétique dans cette pièce.
Est-ce que nous passons à la plage 3 ?
Oui.
Alors je vais lire les paroles en français de ce que nous allons écouter pour illustrer un autre point que vous allez commenter ensuite. Voici ce que dit donc cette fois le motet. Alors là on est en... C'est quoi ? C'est de l'ancien français ?
Oui, c'est du moyen français.
Du moyen français. Amours mi-fond. Voici ce que dit en français moderne, pour le coup, traduit les paroles. « Mes amours me font injustement souffrir, car ma dame qui a causé ma mort ne daigne pas, pour les maux que j'endure, pour elle me donner de réconfort. » Voici ce que dit une voix. Et puis l'autre, le duplum maintenant, comme on dit ceci également. « En mai, quand fleurit la rose et que j'entends les oiseaux chanter, il me faut, en bon amoureux, manifester ma joie, en bref, je veux aimer. » Nous écoutons donc un motet cette fois, et nous allons revenir dessus tout à l'heure, la plage 3 du CD, du premier CD du nouveau projet de l'ensemble Vox in Rama, Lignum Vitae. Alors Frédéric Rentière, après cette écoute, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le genre des motets et leur rapport à la liturgie, par exemple ?
Oui, effectivement, on peut se poser la question du rapport entre le fin amour et puis la la thématique de l'arbre de Jessé, notamment illustré par le Répond de Fulbert. Mais justement, c'est une façon de penser qui aujourd'hui peut nous paraître étrange, mais la correspondance entre sacré et profane ne pose pas du tout de problème à ces époques. Et notamment la thématique de la fleur va être un peu un pont symbolique, on pourrait dire, entre la fleur qui est le symbole du Fils dans le Répond de Jessé, mais qui est aussi le symbole de l'efflorescence du désir, de ce qu'on appelle l'émoi. Donc en fait, finalement, ce qui semble opposé ne l'est pas du tout et se stratifie bien, se construit bien ensemble.
Est-ce que nous passons à la dernière pièce que vous vouliez nous faire découvrir ?
Oui, un extrait du motet Plus belle que Flour, qui est toujours construit sur le même plein chant, mais qui est cette fois-ci à trois voix qui s'y superposent.
Alors je lis là aussi, hein, pour qu'on ait une idée de quoi il s'agit, les paroles en français. « Plus belle qu'une fleur est celle, à mon avis, vers laquelle je me tourne. Quand reviennent fleurs et feuilles à la saison d'été, Dieu... Il me souvient alors d'amour qui toujours m'a été aimable et doux. Avant-hier, je m'en allais flâner en un chemin détourné. J'entrais dans un verger pour cueillir une fleur. J'y trouvais une dame charmante, joliment parée. » C'est donc le motet « Plus belle que Flore », plage 4 du CD « Lignum vitae » de l'ensemble Vox in Rama. Voilà, donc maintenant je voudrais donner un petit peu une idée aussi du CD entier en disant que là nous avons pris un exemple, ce que vous avez appelé le cycle Flos, Filius, Eius, répond Stirpe Jessé sur ce CD, mais je précise que votre programme, votre projet a visé à explorer d'autres cycles. Il y a 4 cycles comme ceci, et donc là, nous n'avons donné à voir ou donné à entendre que le premier. Je voudrais qu'on continue cette émission en vous posant une question peut-être plus générale, peut-être un peu piégée d'ailleurs. Qu'appelle-t-on le plein chant ? Qu'appelle-t-on le cantus planus ? Quel est son rapport finalement d'identité ou de distinction vis-à-vis du chant grégorien ? Vous avez un petit peu évoqué ces questions tout à l'heure, mais est-ce qu'on pourrait y revenir ?
C'est en fait une question que j'aborde également dans le livret Lignum Vitae, que je traite sous un angle plus poétique, plus métaphorique. Effectivement, c'est une question importante. Le plein chant, le cantus planus, c'est un terme général, extrêmement général, et qui, comme tout terme général, est flou. C'est une case dans laquelle on met finalement tout ce qui n'est pas rythmé, en tout cas tout ce qui n'a pas un rythme abstrait et dont le rythme est vraiment le rythme du verbe, le rythme de la parole. Or que le chant grégorien, quand on dit grégorien, on évoque bien sûr Grégoire le Grand, le pape, et on évoque une tradition avec une tutelle, en fait, une tutelle honorifique, on pourrait dire, si on se réfère justement à la tradition grégorienne. Et donc, en fait, on parle de la même chose, mais pas du tout sous le même angle, en fait. Donc moi, personnellement, je préfère parler de tradition grégorienne pour évoquer les plus de 1300 ans qu'elle représente. Et je m'intéresse particulièrement aux premières attestations notées, en fait, ce qu'on appelle les manuscrits pneumatiques, où on note, en moyen d'une sténographie, les élans de la voix, la prosodie, c'est-à-dire la manière d'accentuer le texte quand on le chante, la manière aussi de mouvoir la voix, la manière de mouvoir les affects, justement, si on est plutôt du côté augustinien des musica, qui est une question très importante et qui nous permet de nous rapprocher vraiment de l'esprit du chant. Voilà, et donc notamment dans le CD, justement, les auditeurs pourront constater que chaque pièce qui sert à la construction du motet est d'abord présenté dans une attestation plus ancienne, plus proche justement d'un chant grégorien oral, quand il était encore chanté très probablement de mémoire.
Ben, merci beaucoup. Alors peut-être une dernière question, plus, je ne sais pas s'il faut dire plus anecdotique, en tout cas plus qui rebondit un peu sur l'actualité, j'ai envie de dire. Bon, vous avez enregistré dans ce projet, dans ce CD, dans ce double CD, d'une part bien, ces cinq cycles que nous venons d'évoquer et d'illustrer, mais vous avez aussi enregistré la messe de Notre-Dame de Guillaume de Machaut, donc 14e siècle, et nous allons finir cette émission en écoutant le Kyrie dans un instant. On ne peut pas évoquer la messe de Machaut sans signaler effectivement qu'il y a eu un enregistrement qui a compté ces dernières années de la messe de Machaut par l'ensemble Organum. Alan Cosin, dans le New York Times en 2004, avait sélectionné, si je puis dire, cet enregistrement de la messe de Machaut par l'ensemble Organum comme étant un des 100 enregistrements les plus importants du siècle. Quel regard vous portez sur cette interprétation de la messe de Machaut par l'ensemble Organum et comment vous vous en distinguez? Je ne sais pas comment il faut dire.
Oui, c'est sûr que la version de Marcel Pérez est une très belle illustration de ce que peut être ce que lui appelle très, très justement l'édifice sonore. Ce que je connais de cette version, c'est justement un travail sur la différenciation des timbres qui permet justement de mettre en valeur la position de chaque voix dans l'architecture de la messe et justement d'en faire ressortir les disparités et tout l'équilibre finalement que Machaut a essayé d'établir. Voilà. Alors moi, par rapport à ça, il est normal que évidemment cet enregistrement ait marqué son temps, surtout qu'on ne s'attendait pas à entendre ça de la messe de Machaut, vu ce qu'il y avait eu avant, bien sûr. Maintenant, moi, par rapport à, je me positionne différemment dans la mesure où ce que je cherche d'abord, mon premier objectif, va être la prosodie. C'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler au Moyen-Âge la virtus du texte, c'est-à-dire la puissance du texte. Et ce qui est très important, c'est de redonner toute la corporéité du texte, toute sa force sensible. Donc je me suis d'abord concentré sur l'homogénéité de la diction, sur ce qu'on appelle la prosodie. Donc du coup, cet objectif m'a entraîné dans une autre direction de travail. Et puis je me suis aussi concentré sur la conduction de la voix, c'est-à-dire le fait que d'essayer de maintenir de manière la plus homogène possible le chant de chaque chanteur pour mettre en valeur le travail de coloration harmonique qui est très particulier dans la messe de Machaut et qui à la fois est très surprenant, qui est aussi captivant, mais qui peut être aussi très déroutant, mais qui fait partie d'une réalité du chant liturgique au XIVe siècle qui nous échappe et qui est vraiment on pourrait dire un tournoiement qui nous fait entendre un tournoiement de couleurs qui semble extrêmement extrêmement surprenant pour l'idée qu'on se fait du chant liturgique. Voilà.
Eh bien, Frédéric Rentière, il me reste à vous remercier de nous avoir fait découvrir ce nouveau programme que vous avez proposé. Et je vous dis à bientôt pour une autre interview. Et nous allons écouter dans un instant donc le Kyrie de la messe de Machaut. Je rappelle que Guillaume de Machaut est né en 1300, qu'il est mort en 1377, et que le Kyrie 4 est basé, que pardon, le Kyrie de sa messe, de la messe de Notre-Dame, est basé sur le Kyrie 4 Cuncti Pontes Genitor. Frédéric Rentière, à bientôt.
À bientôt, Michael.
Merci. pour terminer cette émission, après le Kyrie de la messe de Machaut, je vous propose une citation conclusive sur la naissance, hein, finalement, du motet polyphonique et du motet profane dont nous a entretenu tout à l'heure Frédéric Rentière. Et c'est un extrait du livre « La liturgie de l'Église » publié par Michael Kunstler aux éditions Saint-Paul. Voici ce qu'il écrit. « C'est la polyphonie de plus en plus élaborée qui aboutit à la séparation de la liturgie et de la musique. » À travers les formes primitives de l'organum, naquit à Paris au XIIIe siècle, durant l'époque Notre-Dame, dont les principaux maîtres furent Léonin et Perrotin, naquit donc le motet polyphonique. L'affranchissement par rapport à la mélodie, ainsi que l'introduction du français, dont les pièces que nous avons écoutées avec Frédéric Rentière tout à l'heure témoignent ô combien. L'affranchissement par rapport à la mélodie, ainsi que l'introduction du français, en firent la racine du motet profane. Au cours des époques qui suivirent, celles de l'Ars Antiqua, 1250-1310, et de l'Ars Nova, 1310-1377, il ne cessa de s'affiner et de s'émanciper par rapport aux règles liturgiques, à tel point que le pape Jean XXIII, en 1324, condamna les excès et exigea un retour à des liens plus étroits avec la liturgie. Voilà, je vous quitte sur cette citation de Michael Kunstler et je vous dis à bientôt dans Kyrielle.